Chapitre 12. Le tête se brise. 1. La nuit trouva Jed Chambers assis, inconsolable, devant la taverne du Trèfle, à l'extrémité est de la rue principale de Pleasantville. Une équipe d'entretien robotisée avait ramassé les cadavres des gardes, ce qui était déjà un soulagement. Oté reposait sur les genoux du garçon depuis plus d'une heure. D'ordinaire, jamais il ne serait resté si près pendant tout ce temps, mais il semblait comprendre que Jake avait besoin de lui. Et plus d'une fois, Jake sanglota dans la fourrure du bafouilleux. Tout au long de cette journée interminable, Jake avait entendu deux voix différentes dans son esprit. Ce qui lui était déjà arrivé auparavant, mais plus depuis des années. Plus depuis l'époque où, très jeune encore, il avait soupçonné qu'il souffrait d'une sorte de dépression étrange, invisible pour le radar parental.
Eddie est en train de mourir,
disait la première voix, celle qui répétait autrefois qu'il y avait bien des monstres dans le placard et qu'ils allaient bientôt en sortir pour venir le dévorer vivant.
Il est dans une chambre du dortoir Corbett, et Susanna est assise auprès de lui, et il ne veut pas la fermer, mais il est en train de mourir.
« Non !» répliqua la deuxième voix, celle qui lui affirmait, faiblement, que les monstres, ça n'existait pas.
« Non, ce n'est pas possible. Eddie, c'est... Eddie ! Et en plus, il est qu'à tête. Il mourra peut-être quand on atteindra la tour sombre. » Peut-être qu'on mourra tous en atteignant la tour, mais pas maintenant, pas ici, c'est de la folie.
Eddie est en train de mourir, reprit la première implacable. Il a un trou dans la tête, tellement gros que ton poing tiendrait dedans, et il est en train de mourir. La deuxième voix ne sut pas quoi répliquer cette fois-ci, et ses récriminations se firent de plus en plus faibles. Même le fait de savoir qu'ils avaient très probablement sauvé le rayon, en tout cas Chimmy avait l'air convaincu que c'était le cas. Il avait parcouru tout le campus étrangement silencieux du Devartois en claironnant à tue-tête la nouvelle.
« Le rayon dit que tout ira bien, le rayon dit grand merci !»
Rien ne pouvait apaiser Jake. La perte d'Eddie. C'était trop cher payé, même pour une issue telle que celle-ci. Et la rupture du tête était un prix encore plus inacceptable. À chaque fois que Jake y pensait, il sentait une nausée immonde lui retourner l'estomac, et il adressait des prières inexprimables à Dieu, à Gan, à l'homme Jésus, à tous à la fois, pour qu'il fasse un miracle et sauve la vie d'Eddie. Il pria même l'écrivain.
« Sauvez la vie de mon ami et nous sauverons la vôtre !»
implora-t-il Stephen King, cet homme qu'il n'avait jamais vu.
« Sauvez Eddie et nous empêcherons cette camionnette de vous renverser, je le jure !»
Puis il revit Susanna en train de hurler le nom d'Eddie, en train d'essayer de le retourner, et Roland qui passait les bras autour d'elle en disant « Il ne faut pas faire ça, Susanna, il ne faut pas le déranger !» Et il la revit se débattre comme une diablesse, le visage dément, le visage changeant à chaque personnalité différente qui semblait l'habiter pendant quelques secondes avant de disparaître.
« Je dois l'aider !»
avait-elle sangloté avec sa voix de Susanna. Celle que connaissait Jake, avant de hurler d'une voix plus brutale
« Lâche-moi, enculé! Laisse-moi lui faire du vaudou! Je vais me faire ma petite danse! Il va se lever! Et ma chère, tu vas voir ça, c'est sûr !»
Et Roland, qui la tenait serrée contre lui tout le long, qui la tenait et la berçait tandis qu'Eddie gisait dans la rue. Mais pas mort. Il aurait presque mieux valu qu'il soit mort, même si sa mort signifierait la fin des négociations pour un miracle, la fin de tout espoir. Mais Jack voyait ses doigts couverts de poussière tressauter, et il l'entendait marmonner de manière incohérente, comme un homme qui parle dans son sommeil. Puis Ted s'était approché, suivi de près par Dinky, ainsi que deux ou trois autres briseurs plus hésitants. Ted s'était agenouillé près de la femme qui hurlait et se débattait et avait fait signe à Dinky de se placer de l'autre côté. Ted avait pris une de ses mains, puis invité Dinky à faire de même, d'un signe de tête. Et alors quelque chose avait fusé d'eux, une onde profonde et apaisante. Elle n'était pas destinée à Jack, pas du tout, même. Pourtant, il en avait reçu une partie, et avait senti son cœur emballé ralentir sa course. Il avait scruté le visage de Ted Brottigan et s'était aperçu que ses yeux faisaient de nouveau leur tour, les pupilles se dilatant et se rétractant, Les cris de Susanna avaient faibli, se réduisant à de petits gémissements de douleur. Elle s'était penchée vers son mari, et quand elle avait incliné la tête, ses yeux avaient versé des larmes sur le dos de la chemise d'Eddie, dessinant de petits ronds noirs comme des gouttes de pluie. C'est à ce moment-là que Chimmy avait surgi d'une des ruelles, lançant ses hosanna réjouis à qui voulait les entendre. « Le rayon dit pas trop tard, le rayon dit juste à temps, le rayon dit grand merci et qu'on le laisse cicatriser. » Tout en boitant salement d'un pied, aucun d'eux ne s'en inquiéta ni même le remarqua. Dinky parla à voix basse à la foule grossissante de briseurs venus voir le pistolero mortellement blessé. Et plusieurs allèrent trouver Chimmy pour lui dire de se taire. Dans le centre du Devartois, les alarmes hurlaient toujours, mais les camions de pompiers avaient réussi à maîtriser les trois feux les plus menaçants, ceux de la maison d'Amely, de la maison du gardien et du dortoir fédéral. Ce que Jack se rappelait ensuite, c'étaient les doigts de Ted, des doigts incroyablement doux, écartant les cheveux d'Eddie sur sa nuque, révélant un large trou rempli d'une gelée sanglante. Il y avait de petites paillettes blanches dans la masse rouge sombre. Jack avait voulu croire qu'il s'agissait d'éclats d'os. Mieux valait ça que de supposer que c'était des morceaux du cerveau d'Eddie. À la vue de cette blessure terrible, Susanna s'était redressée brutalement et s'était mise à hurler, à se débattre. Ted et Dinky, lequel était blanc comme un linge, avaient échangé un regard, puis resserré leur emprise sur les mains de la jeune femme pour lui envoyer une nouvelle fois « paix, bien-être, silence, attente, calme, doucement, paix ». Ce message apaisant autant fait de couleurs. Un bleu froid se dissolvant en petites particules grises et tranquilles que de mots. Pendant ce temps, Roland lui retenait les épaules. « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui ? » avait-il demandé à Ted. « Quoi que ce soit, on peut l'installer confortablement, » avait répondu le vieil homme. « On peut faire ça, au moins. » Puis il avait pointé le doigt en direction du Devard. « Est-ce que vous n'avez pas une tâche à finir là-bas, Roland ?» Pendant une seconde, Roland n'avait pas vraiment eu l'air de comprendre. Puis il avait contemplé les cadavres des gardes à terre et avait fini par réagir. « Si, je suppose que si. » « Jack, tu peux m'aider ? Si ceux qui restent devaient trouver un nouveau chef et se regrouper, ça n'irait pas du tout. »«
Et Susanna ?»
avait demandé Jack.
« Susanna va nous aider à trouver un endroit où installer confortablement son mari, afin qu'il y meure aussi paisiblement que possible, »
avait répondu Ted Brottigan.
« N'est-ce pas, ma douce ?»
Elle l'avait regardé avec une expression pas totalement vide. La compréhension et la supplication contenues dans ce regard étaient allées droit au cœur de Jack, comme un stalactite le transperçant.
« Est-ce qu'il doit mourir ? »
avait-elle demandé. Ted avait porté la main de Susanna à ses lèvres.
Oui, il doit mourir, et vous devez le supporter.
Alors, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi.
Avait-elle dit en touchant la joue de Ted du bout de ses doigts.
Jake eut l'impression que ses doigts étaient froids. Froids. Quoi donc, ma chérie? Tout ce qui sera en mon pouvoir.
Il avait enveloppé les doigts de Susanna. Paix,
bien-être, silence, attente, calme, doucement, paix, dans les siens.
Arrêtez ce que vous faites, sauf si je vous dis le contraire.
Avait-elle répondu. Il l'avait regardée avec surprise. Puis il s'était tourné vers Dean qui s'était contenté de hausser les épaules. Il avait alors reporté son attention sur la jeune femme.
« Vous ne devez pas utiliser votre bon esprit pour apaiser mon chagrin, parce que je veux ouvrir la bouche et le boire jusqu'à la lie. Jusqu'à la dernière goutte. »
Pendant un moment, Ted s'était tenu là, la tête baissée, les sourcils froncés. Puis il avait relevé les yeux et avait adressé à la jeune femme le sourire le plus doux que Jake ait jamais vu.
« Si fait, jeune dame, »
avait-il répondu.
« Nous ferons ce que vous nous demandez. » Mais si vous avez besoin de nous, quand vous aurez besoin de nous,
je vous appellerai,
avait conclu Susanna en tombant une nouvelle fois à terre, à côté de l'homme gisant qui marmonnait. 2. Tandis que Roland et Jake regagnaient la ruelle qui allait de nouveau les mener au cœur du Devartois, où ils remettraient à plus tard le deuil de leurs amis tombés au combat en réglant son compte à quiconque leur tiendrait encore tête, Chimmy attrapa le coin de la chemise de Roland et se mit à le secouer.
Le rayon dit grand merci, Will Dearborn qui fut.
À force de crier, il s'était cassé la voix et parlait dans un souffle rauque.
Le rayon dit que tout ira peut-être bien. Il est comme neuf, mieux qu'avant.
C'est bien,
dit Roland. Et Jake était d'accord. Il n'y avait pas eu d'explosion de joie, cependant. Et il n'y en avait pas plus maintenant. Jake ne cessait de repenser au trou que les doigts doux de Ted Brottigan avaient révélé, ce trou rempli de gelée rouge. Roland passa le bras autour des épaules de Chimmy, le serra et lui donna un baiser. Ravi, Chimmy eut un grand sourire.
« Je t'accompagnerai, Roland. Veux-tu bien de moi, mon ami ?»«
Pas cette fois, »
répondit le pistolero.
« Pourquoi pleures-tu ? »
demanda Chimmy. Jake avait vu toute joie quitter brutalement le visage de Chimmy, laissant place à l'inquiétude. Pendant ce temps, d'autres briseurs retournaient vers la rue principale, fourmillant par petits groupes. Jake avait lu la consternation sur leurs visages. Tandis qu'ils considéraient le pistolero, et aussi une sorte de curiosité ébahie, et dans certains cas une hostilité évidente, presque de la haine. Il n'avait pas vu trace de gratitude et pour cette raison, lui les haïssait.
« Mon ami est blessé. Je pleure pour lui, Chimmy, et pour sa femme qui est aussi mon amie. Veux-tu bien te rendre auprès de Ted et de Saïdinki et essayer de l'apaiser, elle, si elle demande à être apaisée ?»«
Si tu veux, si fait, je ferai tout pour toi. »
« Grand merci, Sai, fils de Stanley. Et aide-les, s'il déplace mon ami. »«
Ton ami Eddie, celui qui est blessé ?»«
Si fait. Il s'appelle Eddie, tu dis vrai. Aideras-tu Eddie ?»«
Si fait.
Et il y a encore une chose. »«
Si fait ?»«
demanda Chimmy, puis il eut l'air de se rappeler quoi.
« Si fait, je vous aiderai à partir, à voyager au loin, toi et tes amis. Ted me l'a dit. Fais un trou, il m'a dit, comme celui que tu as fait pour moi. Seulement, ils l'ont ramené, les méchants, ils avaient des armes. Vous, ils ne vous ramèneront pas, les méchants, parce qu'ils sont morts. Le rayon est en paix. »
Et Chimmy se mit à rire, écho discordant à l'oreille attristée de Jake. À celle de Roland aussi, sans doute, car son sourire manquait de naturel.
« Quand l'heure viendra, Chimmy, bien que je pense que Susanna reste ici, à attendre notre retour. »«
Si nous revenons un jour, » pensa Jake.
« Mais j'ai une autre tâche à te confier, je pense que tu en seras capable. » Pas exactement faire voyager quelqu'un dans un autre monde, mais pas très loin néanmoins. J'en ai parlé à Ted et à Dinky, et ils t'en parleront à leur tour quand Eddie sera soulagé. Voudras-tu bien les écouter ?
Si fait, et j'aiderai si je le peux.
Roland lui donna une tape sur l'épaule.
Bien.
Et Jake et le pistolero disparurent dans la direction de ce qui aurait pu être le Nord, afin de terminer ce qu'ils avaient commencé. 3. Dans les 3 heures qui avaient suivi, ils avaient éliminé 14 gardes de plus, des humes pour la plupart. Roland avait surpris Jake, du moins un peu, en ne tuant que les deux qui leur tiraient dessus, de derrière le camion de pompiers qui s'était retrouvé une roue coincée dans l'escalier de la cave. Il s'était contenté de désarmer les autres et il avait épargné leur vie en les prévenant que tout garde qui se trouverait encore dans le complexe du Devartois au moment du changement d'équipe en fin d'après-midi serait exécuté sur le champ.
« Mais où est-ce qu'on va aller ?»
avait demandé un taïn avec une tête de coq d'un blanc neigeux coiffé d'un grand chapeau rouge à large bord. Il rappela à Jack Foghorn, le Gorn, le personnage de dessin animé. Roland avait secoué la tête.
« Je me fiche de savoir où vous atterrirez, du moment que vous avez disparu au prochain signal de la sirène. Vous intuitez ? Vous avez œuvré pour l'enfer ici. Mais l'enfer a refermé ses portes, et je veillerai à ce que jamais... elles ne se rouvrent, ces portes-là.
Que voulez-vous dire ?
Avait repris le taïn à tête de coq, d'une voix presque timide. Mais Roland avait refusé de répondre, et s'était contenté d'ordonner à cette créature de faire passer le message à tous ceux qu'elle croiserait. La plupart des taïnes et des cantois qui restaient avaient quitté Algul Siento 2 par 2 ou 3 par 3, sans protester, jetant de temps à autre un regard nerveux par-dessus leur épaule. Jake s'était dit qu'ils avaient raison d'avoir peur, parce que, en ce jour, le visage de son Dean était absorbé par ses pensées et marqué d'un chagrin redoutable. Eddie Dean gisait sur son lit de mort. Et Roland de Gilead ne supporterait pas la moindre contrariété.
Qu'est-ce que tu vas faire de cet endroit ?
Avait demandé Jake après que la sirène de l'après-midi eut résonné. Ils étaient passés devant la carcasse fumante de la maison d'Amly, où les robots pompiers avaient posé des panneaux tous les 5 mètres, disant « Attention, ne pas pénétrer, enquête en cours », pour rejoindre Eddie. Roland avait seulement secoué la tête sans répondre. Sur l'allée, Jake avait aperçu 6 briseurs debout en cercle, se tenant les mains. On aurait dit un groupe en pleine séance de spiritisme. Chimmy était là, ainsi que Ted et Danny Rostoff. Il avait également vu une jeune femme, une femme plus âgée et un homme robuste ressemblant à un banquier. Derrière eux, allongés et les pieds sortant dessous des couvertures, une 50aine de gardes étaient alignés, ceux tués pendant cette attaque éclair.
« Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire ?»
avait demandé Jack en parlant des Falken en plein spiritisme. Roland avait jeté un regard bref en direction du cercle de briseurs.
Oui.
Alors ?
Pas pour l'instant, avait répliqué le pistolero. Pour l'instant, nous allons présenter nos respects à Eddie. Tu vas avoir besoin de toute la sérénité dont tu seras capable. Et pour cela, tu vas devoir te vider l'esprit.
4. À présent, assis avec Côté devant la taverne du trèfle vide, avec ses enseignes au néon et son jukebox muet, Jack mesurait combien Roland avait eu raison, et combien il lui en était reconnaissant. Au bout d'environ 45 minutes, le pistolero l'avait regardé et voyant la détresse immense dans laquelle il se trouvait, il l'avait autorisé à quitter la pièce où gisait Eddie. Eddie, qui abandonnait à chaque seconde une nouvelle parcelle de vitalité, laissant l'empreinte de sa remarquable volonté sur chaque centimètre de la tapisserie de sa vie. Le petit groupe réuni par les soins de Ted Brottigan avait transporté le jeune pistolero jusqu'au dortoir Corbette où on l'avait installé dans la chambre spacieuse située au premier étage des appartements du surveillant. Les porteurs étaient restés dans la cour du dortoir. Et au fil de l'après-midi, ils y avaient été rejoints par le reste des briseurs. Quand Roland et Jack étaient arrivés, une femme rousse et grassouillette s'était interposée devant Roland.
« Madame, à votre place, je ferai pas ça, » avait pensé Jack. « Pas cet après-midi. »
En dépit des bouleversements et des péripéties du jour, cette femme, qui rappelait à Jack la présidente à vie du club très chic dont sa mère était membre, avait trouvé le temps de se tartiner d'une couche plutôt impressionnante de maquillage. De la poudre, du fard à joues, du rouge à lèvres aussi vif que la carrosserie du camion de pompiers du Dévartois. Elle s'était présentée sous le nom de Grace Rumbelow, anciennement d'Aldershot, dans le Hampshire en Angleterre, et avait exigé de savoir ce qui allait se passer maintenant, où ils iraient, ce qu'ils feraient, qui prendrait soin d'eux. Les mêmes questions que celles qu'avait posées le taïn à tête de coq, mais formulées différemment.
« Parce qu'on a pris soin de nous !» avait harangué Grace Rumbelow de sa voix retentissante.
Jack avait été fasciné par son accent snob et sa voix haut perchée.
« Et nous ne sommes pas en position, du moins pour l'instant, de prendre soin de nous-mêmes !»
Des voix s'étaient élevées pour confirmer. Roland l'avait considéré des pieds à la tête, et quelque chose dans son expression avait fait tomber le simulacre d'indignation de la femme plantée en face de lui.
« Dégagez de mon chemin, » avait dit le pistolero, « ou bien je vous pousserai moi-même. »
Elle avait pâli sous son masque de poudre et s'était exécutée sans ajouter un mot. Un pépiment de désapprobation avait suivi Jack et Roland à l'intérieur du dortoir Corbette, mais ne démarrant qu'après que le pistolero fut hors de leur vue et qu'ils n'eurent plus à craindre le feu dérangeant de ses yeux bleu acier. Les briseurs évoquaient à Jack ses gamins avec lesquels ils étaient allés en classe à l'école Piper. Des crétins qui se décidaient à gueuler cette « dissère, elle est nulle » ou « je te ferai bouffer mon sac » une fois que le prof avait quitté la salle. Le couloir du premier étage du dortoir Corbett scintillait sous les plafonniers fluorescents et sentait fortement la fumée qui dérivait de la maison d'Amley et du dortoir Féveral. Dinky Earnshaw était assis sur une chaise pliante, à droite de la porte marquée « Appartement du surveillant », à fumer une cigarette. Il leva les yeux à l'approche de Roland et de Jack, et Doté, qui, comme à son habitude, ne quittait pas le jeune garçon d'une semelle.
« Comment va-t-il ? »
demanda le pistolero.
« Il est en train de mourir, mon vieux, »
fit Dinky. Puis il haussa les épaules.
« Et Susanna ?»«
Elle est forte, et une fois qu'il sera parti... »
De nouveau, Dinky haussa les épaules.
comme pour dire que tout pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre. Roland frappa doucement à la porte.
« Qui est-ce ? »
fit la voix étouffée de Susanna.
« Roland et Jake, » répondit le pistolero. « Tu veux bien nous laisser entrer ?»
Le silence qui suivit parut anormalement long à Jake. Roland, en revanche, n'en eut pas l'air surpris. Ni Dinky, d'ailleurs. Susanna finit par répondre.
« Entrez. »
Ce qu'ils firent.